Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 33e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Blaise Pascal et la question « Est-il digne d'un chrétien d'user de la moquerie ?» Blaise Pascal, c'est d'abord Louis de Montalt, celui que l'on campe souvent comme un grave penseur janséniste, brûlé par une expérience mystique, s'est d'abord présenté au public sous un autre nom, en polémiste plein de raillerie et d'allégresse, joignant la légèreté à la rigueur. De fait, avant les pensées, qui sont une compilation posthume, il y a les provinciales, ou, pour mieux dire, les lettres à un provincial sur le sujet de la morale et de la politique des révérends pères jésuites. Pascal y critique le laxisme et la casuistique, non pas en fronçant le sourcil en faisant le rabat-joie, mais au contraire en adoptant le style comique, l'ironie, la moquerie, anticipant sur Nietzsche et annonçant déjà Léon Blois. Mais un tel style est-il d'un bon chrétien? Les pères jésuites s'indignent. Au lieu de lui répliquer sur des questions de fond, ils l'attaquent sur cette question de forme. Non, on ne saurait railler sur des choses aussi importantes. Pascal leur répond bientôt et directement dans sa 11e provinciale. C'est un extrait de celle-ci que nous allons maintenant écouter, prouvant le divin sérieux qui peut se rencontrer dans la moquerie.
Du 18 août 1656. Mes révérends pères, j'ai vu les lettres que vous débitez contre celles que j'ai écrites à un de mes amis sur le sujet de votre morale, où l'un des principaux points de votre défense est que je n'ai pas parlé assez sérieusement de vos maximes. C'est ce que vous répétez dans tous vos écrits et que vous poussez jusqu'à dire que j'ai tourné les choses saintes en raillerie. Quoi, mes pères ? Les imaginations de vos auteurs passeront pour les vérités de la foi ? Et on ne pourra se moquer des passages d'Escobar et des décisions si fantasques et si peu chrétiennes de vos autres auteurs sans qu'on soit accusé de rire de la religion ? Est-il possible que vous ayez osé redire si souvent une chose si peu raisonnable ? Et ne craignez-vous point, en me blâmant de m'être moqué de vos égarements, de me donner un nouveau sujet de me moquer de ce reproche et de le faire retomber sur vous-même en montrant que je n'ai pris sujet de rire que de ce qu'il y a de ridicule dans vos livres et qu'ainsi, en me moquant de votre morale, j'ai été aussi éloigné de me moquer des choses saintes que la doctrine de vos casuistes est éloignée de la doctrine sainte de l'Évangile. En vérité, mes pères, il y a bien de la différence entre rire de la religion et rire de ceux qui la profanent par leurs opinions extravagantes. Ce serait une impiété de manquer de respect pour les vérités que l'Esprit de Dieu a révélées. Mais ce serait une autre impiété de manquer de mépris pour les faussetés que l'Esprit de l'homme leur oppose. Ne prétendez donc pas, mes pères, de faire accroire au monde que ce soit une chose indigne d'un chrétien de traiter les erreurs avec moquerie, puisqu'il est aisé de faire connaître à ceux qui ne le sauraient pas que cette pratique est juste, qu'elle est commune aux pères de l'Église et qu'elle est autorisée par l'Écriture, par l'exemple des plus grands saints et par celui de Dieu même. C'est une chose bien remarquable sur ce sujet que, dans les premières paroles que Dieu a dites à l'homme depuis sa chute, on trouve un discours de moquerie et une ironie piquante selon les pères. Car après qu'Adam eut désobéi, dans l'espérance que le démon lui avait donnée d'être fait semblable à Dieu, il paraît par l'Écriture que Dieu, en punition, le rendit sujet à la mort et qu'après l'avoir réduit à cette misérable condition qui était due à son péché, il se moqua de lui en cet état, par ses paroles de risée, « Voilà l'homme qui est devenu comme l'un de nous, ecce Adam quasi unus ex nobis. » Ce qui est une ironie sanglante et sensible dont Dieu le piquait vivement, selon Saint Chrysostome et les interprètes. « Adam, dit Rupert de Deutz, méritait d'être raillé par cette ironie. Et on lui faisait sentir sa folie bien plus vivement par cette expression ironique que par une expression sérieuse. Et Hugues de Saint-Victor, ayant dit la même chose, ajoute que cette ironie était due à sa sotte crédulité et que cette espèce de raillerie est une action de justice lorsque celui envers qui on en use l'a mérité.
Fabrice Hadjadj, ne craignez-vous point, en me blâmant de m'être moqué de vos égarements, de me donner un nouveau sujet, de me moquer de ce reproche? Quel est le contexte de ce texte?
Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de débat à front renversé, on pourrait dire, puisque c'est le plus rigoriste, on pourrait dire, en morale, qui est ici le plus léger, à savoir Pascal, voilà. Et qui emploie ce ton non seulement de la raillerie, mais parfois presque d'une sorte de badinerie. Hein, ça c'est très étonnant. Et de l'autre côté, ce sont les pères jésuites qui sont ici accusés d'être des latitudinaires, on dirait des laxistes aujourd'hui, avec leur casuistique, c'est-à-dire une étude de la morale au cas par cas, qui abolirait, vous voyez, des préceptes généraux, on pourrait dire, et qui laisserait l'action à une forme de relativisme. Eh bien, ce sont les jésuites qui, eux, ont l'air très ouverts, qui, au contraire, sont dans une sorte de ton, d'esprit de sérieux lourd, pesant, voilà. Donc ça, c'est très étonnant. Et c'est un lieu aussi étonnant de la pensée de Pascal, parce que ça n'est pas ici le Pascal des pensées, justement. C'est un Pascal polémiste, un Pascal plein d'une sorte de jeunesse, on pourrait dire, bondissante. Et même ce texte ne montre pas combien ça fuse de toutes parts. Enfin, c'est d'une intelligence et d'un brio exceptionnel. Et donc, une œuvre vraiment, vraiment majeure. Mais vous allez nous parler un peu de Pascal pour commencer, Galdric.
Bien sûr. Blaise Pascal est donc l'unique fils et le troisième enfant de celui dont il faut parler un petit peu en premier, Étienne Pascal, qui est président de la Cour des aides à Clermont-Ferrand. Et il va, lorsque la mère de Pascal meurt quand Blaise Pascal a 3 ans, Étienne Pascal, le père, va prendre en charge, alors qu'il a ses responsabilités assez importantes dans les finances du royaume, il va assumer lui-même l'éducation de ses 3 enfants. Et en 1631, la famille va s'installer à Paris, et très rapidement, Étienne Pascal est intégré au cercle intellectuel de la capitale, et dès les 13 ans de Pascal, Étienne Pascal va prendre son fils Blaise avec lui, notamment à l'académie du père Marin Mersenne, donc un correspondant de Descartes et un des grands physiciens de l'époque, un des grands physiciens et mathématiciens du XVIIe siècle. Et donc, il assiste à ces débats entre scientifiques dès ses 13 ans, donc il est vraiment à la pointe du monde et des découvertes scientifiques. Dès ses 16 ans, il fera son premier exposé à cette même académie, qui est unanimement applaudi, puisqu'il va démontrer notamment ce qu'on appelle la fameuse propriété de l'hexagone mystique inscrit dans un conique, qui va lui donner de publier un essai pour les coniques. Donc déjà, vraiment de la mathématique spéculative, assez géniale, dès ses 17 ans. En 1639, la famille Pascal quitte Paris pour se rendre à Rouen, puisque Richelieu a nommé Étienne Pascal commissaire à la levée des impôts pour la Normandie. Et la tâche de collecte d'impôts est particulièrement difficile et répétitive. Et afin de faciliter le travail de son père, Blaise Pascal va concevoir et créer une machine à calculer, la Pascaline, qu'il met au point en 1642. Donc, il a à peine 20 ans. Enfin, il a même, pour être précis, 19 ans.
Ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que, bon, on voit une disposition géniale, un enfant précoce, mais en même temps, on voit aussi une contingence, quelque chose qui aurait pu ne pas avoir lieu, c'est-à-dire le fait que si le père n'était pas monté à Paris, si ce jeune homme précoce n'eût pas rencontré le père Mersenne, en fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Voilà, on ne sait pas. Donc, il y a à la fois le génie, peut-être, mais enfin, il y a aussi une providence, en tout cas des hasards qui ont...
Une autre circonstance contingente, c'est qu'en 1646, Étienne Pascal va faire une chute à cheval et se blesser à la jambe. Et il va être soigné par deux frères médecins, les frères Deschamps, qui sont récemment convertis au jansénisme de Port-Royal. Et ils vont avoir une influence décisive sur la famille Pascal, puisqu'ils vont les introduire à cette pratique chrétienne. Et Pascal dit qu'il va vivre comme une première conversion à leur contact en lisant les livres de Port-Royal.
Voilà, c'est d'ailleurs peut-être ça qu'il faudrait dire, si on veut être précis, dire Port-Royal plutôt que peut-être le jansénisme, parce que tout de suite, c'est la dénomination qui vient de leurs ennemis, quoi, et qui tout de suite les réduit à une hérésie ou quelque chose de malsonnant. Oui.
Pascal va retourner à Paris à cause des problèmes de santé, la Normandie. Trop humide et il ne trouve pas les bons médecins. Donc il retourne, Blaise Pascal retourne seul à Paris et il va s'intéresser à énormément de querelles scientifiques, notamment la querelle de l'existence du vide. Et il rencontre Descartes en 1647 lors du dernier passage de Descartes à Paris et il lui aurait prouvé l'existence du vide, ce que Descartes refusait. Donc encore un contact supplémentaire avec ce Descartes. En 1651, le père de Pascal va mourir et la sœur de Pascal, Jacqueline, va rentrer chez les cisterciennes de Port-Royal, alors que Pascal va plutôt se réfugier dans une forme de mondanité ou se perdre un peu dans les sciences. Et il va développer une correspondance très importante avec Fermat, le grand mathématicien, voilà. Et développer l'aider dans la création des théories des probabilités. Mais en 1654, Pascal va connaître une forme d'extase mystique, une nuit de feu, comme il dit, certitude, joie, paix, pleurs de joie. Et c'est ce qu'il va décrire comme sa seconde conversion, avec le désir de renoncer au plaisir du monde et aux sciences humaines, qui semblent d'un coup vaines par rapport à cette révélation de l'amour divin. Et donc il va se retirer chez les gens, à Port-Royal, avec les messieurs de Port-Royal qui vivent dans les granges autour du monastère pour vivre proche des cisterciennes, vivre au rythme de la liturgie et vivre une vie consacrée à la prière. C'est dans cette circonstance que Antoine Arnauld, le grand théologien de Port-Royal à la Sorbonne, va être condamné par les jésuites et donc que Pascal va entreprendre sa défense dans les provinciales dont nous venons de lire un extrait à l'instant. Voilà. Pendant cette période de Port-Royal, il va aussi commencer à rédiger énormément de petits billets sur lesquels il rédige ce qu'on nommera plus tard, enfin ce qui va composer la matière de ce qu'on assemblera plus tard en nommant les pensées. Et il meurt atteint d'un cancer à l'estomac à 39 ans. Donc, en ayant accompli une dernière invention, le carrosse à 5 sols, la première forme de transport en commun avec un carrosse qui ferait le même itinéraire tous les jours et qui aurait un prix fixe qui permettrait à n'importe qui de monter dedans à n'importe quel endroit. Voilà.
L'inventeur de l'autobus, quoi,
exactement.
En fait.
Hein, ouais.
Donc, ce Pascal qu'on décrit comme scientifique et qui est marqué, en fait, par une série de rencontres et notamment effectivement donc la conversion, enfin plutôt l'entrée en religion de sa sœur et une expérience mystique qui vont en faire non seulement un des grands penseurs et même on pourrait presque dire théologiens chrétiens, parce que Pascal est simplement philosophe, on a du mal à classer ses écrits, mais même quelqu'un que le pape François souhaite béatifier manifestement. Donc il y a une actualité pascale très importante au sein de l'Église, et donc peut-être non seulement un grand écrivain, il faut toujours le souligner, le style de Pascal est absolument remarquable, et peut-être encore plus d'ailleurs le style de ses pensées que de style des opuscules ou des traités qu'il a publiés, où c'est un style plus soigné, mais dans, il y a une sorte de nervosité dans l'écriture des pensées qui est extraordinaire et qui frappera d'ailleurs spécialement Paul Claudel. Paul Claudel dira que pour sa phrase, il eut deux modèles, Rimbaud et Pascal. Donc c'est quand même très, très impressionnant de penser cet homme qui meurt à 39 ans, tout jeune, et l'apport absolument considérable de son œuvre.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, est-il digne d'un chrétien d'user de moquerie ? Fabrice Hadjadj, pour comprendre un petit peu ce texte en profondeur, Pascal attaque les jésuites au début de ce texte en leur disant « On ne pourra se moquer des passages d'Escobar et des décisions si fantasques et si peu chrétiennes de vos autres auteurs sans qu'on soit accusé de rire de la religion ». Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez rappeler à quoi précisément il fait référence ici ?
Alors, Escobar, le Escobar dont il s'agit ici n'est pas celui du cartel de la drogue, même si on pourrait dire qu'il opère une sorte de trafic de stupéfiants moraux, puisque à cette époque-là se développe, et non sans raison du reste, puisque c'est la tâche des jésuites, d'une certaine façon, le discernement des esprits, l'action dans la suite d'Ignace de Loyola, et d'une logique d'engagement dans la vie de tous les jours, d'un engagement, on pourrait dire, chrétien, chevaleresque dans la vie de tous les jours. Donc c'est la tâche des jésuites d'être des directeurs spirituels et donc d'accompagner l'action humaine. Et va se développer donc une casuistique, c'est-à-dire une pratique de la théologie morale qui ne s'intéresse pas simplement à donner des préceptes et à laisser chacun, on pourrait dire, à la responsabilité, à sa prudence, mais à entrer dans des cas particuliers et à montrer que dans les cas particuliers, dans des cas très particuliers, on peut ne plus respecter la lettre de la loi pour conserver son esprit. Donc le cas peut être tel que des choses peuvent aller à l'encontre de ce qui serait la première intuition. Donc dans des traités de casuistique, on arrive à des questions du type à supposer qu'un homme et une femme soient en temps de guerre avec un grand risque d'être assassinés s'ils sortent de l'endroit où ils sont. Donc un homme et une femme sont enfermés dans une église et se cachent sous l'autel de l'église. Est-ce qu'ils peuvent avoir une relation sexuelle sous cet autel, voire sur cet autel, dans ce contexte-là ? Alors vous voyez, on peut arriver à des questions très étranges. C'est pas simplement qu'on s'intéresse au cas particulier, c'est qu'à la fin va s'élaborer une doctrine qui va dire, mais en fait, ce qui est absolument premier et décisif en morale, c'est l'intention. Et il suffit de bien diriger son intention pour que, d'une certaine façon, n'importe quel acte matériel, matériellement, même s'il apparaît matériellement mauvais, soit bon. Donc, on va avoir des cas très, très étranges. Par exemple, même Pascal parlera de certains assassinats ou alors du fait de pouvoir assister à une messe par morceaux. Vous voyez, on écoute 15 minutes d'une messe, puis on va à un rendez-vous, puis après 15 minutes d'une autre, puis on va à un rendez-vous, puis voilà. Et on pourrait assembler comme ça une messe toute entière, voilà. De nombreux cas de ce genre dans lesquels les jésuites ont l'air plutôt approbateurs si l'intention reste louable, droite, etc. Donc on en arrive à une sorte de morale qui part du cas particulier, mais qui arrive à une sorte de généralisation complète en disant oui, il suffit de bien diriger son attention. Donc il n'y a plus d'actes objectivement mauvais. Et c'est contre cela, principalement, bien sûr, même si l'occasion est plutôt de, comme vous l'avez dit, de contrecarrer la condamnation du grand Arnaud, enfin d'Antoine Arnaud. C'est d'abord cela, le contexte, voilà, de ce texte.
Et alors, Fabrice Hadjadj, la défense de Pascal dit s'appuyer sur l'exemple de Dieu lui-même, puisque Pascal use de la raillerie et tourne en dérision les propos des jésuites, et il dirait s'inspirer même de non seulement d'auteurs saints, mais de Dieu lui-même, puisque Dieu lui-même aurait fait preuve d'ironie à l'égard de l'homme.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord ce qu'il dit, c'est que le respect pour la vérité, les vérités que l'Esprit de Dieu a révélées, implique le mépris pour les faussetés que l'homme leur oppose. Donc en réalité, vous voyez, c'est pas qu'on entre dans un esprit de raillerie comme tel ou qu'on devient un simple moqueur. C'est que d'une certaine façon, la piété et la moquerie, le respect et la raillerie grandissent ensemble. Plus j'ai de respect pour la vérité, plus je suis non seulement en droit, mais en devoir de me moquer non seulement des erreurs, mais enfin même des perversions, des manières de troubler, cet ordre de la vérité révélée. Donc, première chose, voyez, il ne s'agit pas de faire de la raillerie le seul ton, la seule manière d'entrer en rapport dans la conversation. Non, elle est, on pourrait dire, l'envers de ce qui est d'abord l'amour et le respect des vérités révélées. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il trouve un fondement scripturaire. Alors, non seulement le Christ fonde l'Église en employant un calembour, « Tu es Pierre et sur cette pierre », bon, voilà, donc le calembour est autorisé, mais chez Jésus même, la force, on entend des moments ironiques, voire même de l'imprécation auprès des pharisiens, quand il les traite de sépulcre blanchi. On voit une ironie divine quand Caïphe dit une chose, il dit bon qu'un homme meure pour la nation, et en fait cette chose s'avère vraie, ce qu'on pourrait appeler une ironie au premier degré, qu'on voit souvent dans la Bible. Et puis surtout, il y a beaucoup de citations du fait que le Seigneur peut se rire, du sort des méchants. C'est ce qu'on appelle, c'est le verbe qui est employé, c'est le verbe subsanare, la subsanatio divine dans la Vulgate, qui est justement cette sorte d'ironie cinglante, de raillerie, etc. Alors, voilà, où est-ce qu'on est ici? Il y aura un fondement scripturaire. Quelle est la légitimité de ça, hein? Alors, on sait bien que de bien rire châtie les mœurs, selon l'adage latin. Et c'est quelque chose, il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où Molière pourra aussi écrire sa défense de Tartuffe. Et dans la défense du Tartuffe, il est aussi là en jeu de dire, les gens ne réagissent pas quand on censure leurs vices, mais quand on pointe leur ridicule, ils sont troublés. Et c'est ça qui est très important. C'est que quand quelqu'un, dans l'ordre de la vérité, est dans une telle fermeture, on pourrait dire, et on peut essayer de croire que l'argumentation suffit, mais en fait, il est tellement imbu de lui-même que rien ne va bouger. Et ce dont le mondain a peur, c'est d'abord qu'il apparaît ridicule. Et d'où la nécessité à cet endroit-là, avec charité en fait, d'employer ce moyen de la raillerie. Et si on est juste en train de... On accepte finalement l'opposition au plan de l'argumentation, mais comme elle a l'air grave, comme elle apparaît lourde, et comme d'ailleurs les gens, elle ne nous met pas complètement à nu, où on ne s'en rend même pas compte puisqu'on est dans l'erreur, eh bien ça ne nous fait rien. Mais quand, tout d'un coup, on apparaît, comme le Tartuffe, on est dévoilé dans sa maladresse et qu'on devient sujet à rire, alors là il peut y avoir une réaction. Donc au fond, la raillerie pascalienne vise, et c'est ça ce qu'il veut dire, malgré tout, à repentir de la part de celui qui l'a subi. Et l'exemple qu'il prend, voilà l'homme devenu comme l'un de nous. C'était la prétention, hein. Juste après le péché originel, on veut devenir comme des dieux. Et Dieu dit, ah voilà, il devient comme l'un de nous. Alors qu'il va mourir, alors qu'il va manger son pain à la sueur de son front, alors que tout devient absolument terrible. Et dit, ah ben voilà, tu voulais être un dieu, voilà le dieu que tu es devenu. Voilà, ça c'est l'ironie. Et il faut comprendre ici que l'ironie dit le contraire de ce qui est, toujours, hein. Mais elle fait crédit à celui qui entend de l'intelligence d'entendre le contraire de ce qu'on dit. Donc en même temps, l'ironie, elle appelle l'intelligence de l'autre. C'est pour ça que malgré tout, même dans cette parole de Dieu, voilà l'homme devenu comme l'un de nous, qui est une parole ironique et railleuse, c'est une parole encore de miséricorde qui sollicite notre intelligence et qui, en nous mettant à nu, en nous montrant ridicule, nous pousse à une sorte de sursaut, quoi.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Blaise Pascal, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Miguel Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.